L'évangile de Marc et le chapitre 14. Il y a Matthieu dans le Nouveau Testament et puis Marc, chapitre 14. Quand vous faites un don à quelqu'un, quand vous offrez un cadeau, vous voulez que le don soit apprécié à sa juste valeur. Et la raison n'est pas forcément égoïste. Si le don est offert comme un signe de votre amour, et que le don n'est pas correctement estimé, c'est votre amour pour l'autre qui n'est pas démontré. Imaginez un homme qui achète pour sa femme ou peut-être une mère pour sa fille, un collier en or comme expression de son amour. Mais elle le prend comme pour du plastique, une simple bagatelle. Un bibelot de bazar, comme on dit, acheté au marché de Saint-Denis à 1 euro. Eh bien, si elle le prend en tant que tel, elle ne pourra pas apprécier l'amour qui la motiver. Je crois qu'on comprend tous ce phénomène. Et c'est pour cela que nous voulons que nos enfants, nos amis comprennent quand même la valeur de nos cadeaux. Et Dieu veut que nous apprécions le don de salut à sa juste valeur. Et il le fait au moins de trois façons. Et je vous le donne en guise d'introduction. Des façons que Dieu nous aide à apprécier le salut qu'il nous donne à sa juste valeur, il le fait d'une manière, c'est en démontrant notre indignité, c'est-à-dire en notre manque de mérite, notre condition de déchéance. C'est-à-dire que nous ne méritons pas ce que nous recevons. Par exemple, Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous » en ce que lorsque nous étions encore, quoi? Des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ou nous voyons ça dans les premiers 5 versets d'Éphésiens chapitre 2, où en parlant du don de Dieu, il commence ainsi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà, et après toute cette longue explication, il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, et l'amour dont il nous a aimés, et magnifié en comprenant notre état d'indignité. » Et puis le fait, deuxièmement, en démontrant les bénédictions reçues. Tout ce que nous avons en Jésus-Christ, nous les avons considérés même ce matin. Je vous lis aussi 1 Jean 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous témoigne pour que nous soyons appelés, quoi? Enfants de Dieu, et nous le sommes. » Il faut considérer les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, ou Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il le fait troisièmement en démontrant le prix qu'il a payé. Que pour notre salut, ce n'était pas une chose facile. Et c'est ce que nous voyons dans notre texte. Nous voyons un aspect du prix que Jésus a payé pour notre salut. Je vous invite à suivre dans vos Bibles Marc chapitre 14 à partir du verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui en disant « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qui trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Voici la parole de Dieu. Alors, je veux d'abord nous aider à mieux comprendre le déroulement de ces événements. Donc, nous allons prendre quelque temps même à considérer les circonstances précédant sa prière. Nous sommes la veille, j'imagine que cela vous le savez, de la crucifixion de Jésus-Christ. La journée a été bien chargée et elle a été marquée par la célébration de la Pâque pour Jésus et entouré de ses 12 disciples, ses amis les plus proches. Et nous voyons l'amour qu'avait Jésus pour ses disciples dans le fait qu'il eut ce désir de passer la dernière nuit avant sa mort dans leur compagnie, avec eux. Et il leur dit, c'est en Luc 22, 15, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus, on voit, était rempli d'un amour qui voulait servir, il voulait donner. Il avait vivement le désir de leur donner l'ordonnance que nous appelons la Sainte Cène ou le repas du Seigneur que nous venons d'observer comme gage de son amour pour eux. Et même la nuit horrible de souffrance qui devait bientôt s'abattre sur lui ne pouvait l'empêcher à servir ses amis, à littéralement laver leurs pieds la nuit avant sa mort et à rester attentif à leurs besoins jusqu'à la fin. Probablement plusieurs heures s'écoulent pendant que Jésus enseigne et les prépare pour l'avenir. Et en fait, dans l'évangile de Jean, les chapitres 13, 14, 15 et 16 nous donnent les détails de cet enseignement que Jésus a donné dans cette chambre haute. Il faut réaliser, quand vous lisez l'évangile de Jean, que quand vous arrivez à Jean chapitre 13, vous êtes déjà la veille de sa crucifixion. Le mourant donne les dernières heures de sa vie à préparer ses amis à sa propre souffrance. C'est bien lui qui va souffrir, mais il les aime tant qu'il a pitié de leur souffrance qu'ils connaîtront à cause de sa souffrance. Et donc il est là en train de les préparer pour leur souffrance qu'ils connaîtront à cause de sa, bien sûr, plus grande souffrance. Quel amour! Pendant cette nuit fatidique qui le conduira à sa mort, il explique les raisons de sa mort. Il leur donne des promesses par rapport à leur futur. Il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Il identifie le traître pour que les autres ne soient pas excessivement bouleversés par sa trahison. Il leur dit, Jean 13, 19, « Je vous dis dès maintenant, avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrive, vous croyez que moi je suis, en parlant du traître. » Il lave leurs pieds, comme j'ai déjà mentionné, pour leur montrer son amour et pour leur donner un exemple d'humble service à suivre. Il annonce leur propre chute, leur propre infidélité ou déloyauté pour préparer la route de leur restauration et de leur relèvement. Il inaugure l'ordonnance de la scène comme gage de la nouvelle alliance en son sang. Beaucoup de choses se passent cette nuit-là. Et j'aime bien la façon que Jean commence le récit de cette dernière nuit. C'est le premier verset de Jean 13. Écoutez, je vais vous le lire. Il dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant, écoutez ceci, aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aimait jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin. Et puis, ce ministère qu'il a envers ses disciples bien-aimés termine comment? Eh bien, ça termine par une prière pour eux. C'est donné en Jean, chapitre 17, dans le premier verset, dit ceci, « Après avoir ainsi parlé », c'est-à-dire chapitre 13, 14, 15, 16, tout ce discours, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Il fait plus que leur parler et les préparer, il prie le Père pour eux. » Jean 17 est presque dans sa totalité une prière sacerdotale que Jésus prie pour ses disciples en tant que leur prêtre. Alors n'oublions pas que nous sommes à quelques heures de sa mort. Jésus a une connaissance exacte du timing de sa souffrance. Il va pouvoir dire aux disciples, juste avant l'arrivée de Judas, dans le jardin, qu'il arrive, pourquoi il arrive, comment les brebis vont être dispersées, et le berger frappé. Mais à part une requête concernant lui-même, au début de la prière en Jean 17, il prie pour eux. Et il ne prie pas seulement pour les douze, car il dit, écoutez, le verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. » C'est-à-dire, il prie pour nous. Alors, je vous demande, imaginez que vous passez la dernière nuit de votre vie à la réunion de prière en train d'intercéder pour d'autres personnes. Voilà ce que Dieu, notre Dieu devenu homme, fait. Nous voyons l'importance de la prière. Une seule nuit a passé, il va le passer avec l'Église et dans la prière. Et nous sommes maintenant certainement tard dans la soirée quand nous arrivons en Marc 14, 26, où il dit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et puis le verset 32, regardez-le, Marc 14, 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Gethsémané est un jardin sur le mont des Oliviers où Jésus aimait se retirer. Luc 22, 39 dit qu'il allait comme d'habitude. Mais ce n'était pas sa coutume d'y aller si tard la nuit. En fait, il passait les nuits de cette semaine sainte dans la faubourg de Béthanie, dans le petit village de Béthanie qui était tout près de Jérusalem. Marc chapitre 11, verset 11, nous parle de la première fois qu'il est entré à Jérusalem durant cette dernière semaine de sa vie. C'était le jour, rappelez, où la foule a crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Marc 11, 9 dit que le soir de ce même jour, enfin c'est le verset 11, nous dit « Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et observa attentivement tout ce qui s'y passait. Et ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les douze pour se rendre à Béthanie. Et le verset 12 nous dit que le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Donc il a passé la nuit à Béthanie, il revient donc à Jérusalem le lendemain. Et ce qui suit la malédiction du figuier. Et Marc 11, 19 dit que le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville c'est Jérusalem. Donc ils se rendent à Béthanie, et le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier et il avait séché jusqu'aux racines. Cela veut dire qu'il avait encore passé la nuit à Béthanie dans la banlieue de Jérusalem. Et Marc 11, 27 nous dit qu'après cet incident, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et encore, il va au temple. Il y a une discussion avec les autorités où ils vont le pousser à dire avec quelle autorité il agit et il enseigne. Ce sera donc sa troisième journée passée à Jérusalem. Et au fil de la journée, il y aura plusieurs confrontations avec les pharisiens, les sadduciens, qui sont détaillées en Marc chapitre 12. Et puis trouvez Marc 13, les premiers versets. Vous n'êtes pas loin, Marc 13, verset 1. « Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions, ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Donc, la montagne ou le mont des Oliviers était jusqu'à l'extérieur de Jérusalem, en face même du temple. On pouvait regarder, on peut toujours d'ailleurs, si on y va, regarder, observer le temple. Enfin, maintenant, il n'y a plus de temple, mais il y a le mont. Et ce qui suit dans ce chapitre est un très long discours donné sur ce mont des Oliviers. C'est tout le chapitre 13 de Marc. Et Matthieu nous dit que lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, c'est en Matthieu 26, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Donc Jésus comptait littéralement les jours, puis les heures, jusqu'à sa crucifixion. Alors regardez les premiers versets du chapitre 14, Marc 14, verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, voyez où il est, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Et Jésus est de retour à Béthanie, c'est donc probablement le soir ou le lendemain. Et c'est ici à Béthanie où Marie de Béthanie oint Jésus. Et c'est d'ici à Béthanie que Marc, lisons Marc 14, verset 10, que Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, il firent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Alors lisons maintenant Marc 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» C'est-à-dire, veux-tu Jésus rester ici à Béthanie, ou veux-tu aller ailleurs? Où est-ce que tu veux célébrer la Pâque? Et le verset 13 nous dit qu'il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville. Alors, quelle est la ville? On a lu plutôt qu'il est sorti de la ville. Et il leur dit, allez à la ville. C'est certainement la ville de Jérusalem. Il leur dit, allez à la ville. Allez à Jérusalem. Et puis regardez le verset 17, Marc 14, 17. « Le soir étant venu, il arriva avec les 12. » Il semble que ce jour, la veille de sa crucifixion, il ait attendu le soir avant de venir à Jérusalem. Mais il ne rentrera plus jamais à Béthanie. Quand il quitte Jérusalem, ce n'est pas pour aller loin, c'est pour aller au mont des Oliviers, qui était en face du temple et dans le jardin qui s'appelait Gethsémané, qui veut dire pressoir d'olive. Et Jésus sait que l'heure est venue, et on voit que Jésus ne tente pas de fuir. Il ne tente même pas de rentrer à Béthanie, mais il reste dans les parages et se dirige vers un lieu que Judas connaît très bien. Quand Judas arrive, Jésus sera là, en train de l'attendre. Voici donc les circonstances précédant sa prière. Considérons l'angoisse qui le pousse à la prière. L'angoisse qui le pousse à la prière. Il y a deux choses ici que le texte souligne. D'abord, l'énormité de son angoisse. Certainement, la pression, l'angoisse augmentée en lui durant toute la semaine. Parce que plus tôt dans la semaine, il avait dit, c'est en Jean 21-27, « Maintenant, mon âme est troublée. » Mon âme est troublée, il a dit, quelques jours auparavant. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et puis, plus tôt dans cette même soirée, en invoquant la trahison de Judas, Jean 13, 21 dit, après avoir dit cela, écoutez ceci, Jésus fut troublé intérieurement et déclara solennellement, oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Il avait dit lui-même, donc, mon âme est troublée. Et le Saint-Esprit nous dit, Jésus fut troublé intérieurement. Mais maintenant, nous sentons que quelque chose s'est déclenché et qui augmente infiniment son angoisse. Lisez avec soin les mots de Marc 14, à partir du verset 32, où ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il avait déjà prié pour eux, Jean 17, mais non, il va prier autrement. Et il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et puis il leur dit, Jésus, qu'il ne peut pas exagérer, qu'il ne peut pas mentir, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et puis, il dit le verset suivant, « Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. » Vous savez, en lisant ces mots, nous ouvrons la porte sur un moment très intime et personnel dans la vie de notre Sauveur. Nous avons presque le sentiment d'avoir honte d'y pénétrer. C'est comme si on ouvrait la porte sur quelqu'un et on se disait, ça c'est un moment privé. Ce qui se passe ici est entre lui et son Père. Mais Jésus, nous voyons, a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean pour qu'il y ait des témoins. Et les évangiles nous invitent à assister à la scène. Nous y pénétrons donc, mais avec, j'espère, beaucoup d'humilité et de respect. Ce serait indigne de parler ou de penser d'une telle souffrance d'une manière légère. Si nous nous approchons du mourant, ce n'est pas en tant que médecin qui va analyser d'une manière détachée l'état physique ou l'état émotionnel du patient. Nous y allons en tant qu'adorateurs, en tant qu'humbles disciples qui veulent apprendre du Maître tout ce qu'il a à nous enseigner, même jusqu'à la dernière minute de sa vie. Et nous voulons mieux apprécier le don qu'il nous donne, et pour ce faire, il faut mieux apprécier le prix qu'il a payé. Donc considérons encore ces mots du verset 33. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Une autre traduction le donne ainsi. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Ou une autre, il commença à être saisi de frayeur et fort agité. Ou une autre, bientôt il est comme submergé de crainte et d'angoisse et se met à trembler. Ce sont des mots forts. Les évangiles nous racontent environ 20 épisodes différents où notre Seigneur prie. Et nous savons qu'actuellement, il intercède pour nous auprès du Père. Mais aucune de ses prières n'est comme celle-ci dans le jardin. Nous voyons Jésus en train de guérir facilement. Il peut tout guérir, il peut ressusciter des morts avec sa simple parole. Mais ici, nous ressentons qu'il lutte dans la prière. Il dit même à ses amis, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » On le voit, après avoir confessé son angoisse et sa tristesse à ses disciples, on le voit s'éloigner d'eux. Luc nous dit, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et il se met d'abord à genoux, comme dit Luc, puis il se jette contre terre, comme dit Marc, ou comme dit Matthieu, sur sa face. Il est clairement dans une angoisse absolue. Et donc après avoir prié, il revient vers ses disciples pour leur parler de nouveau. Mais d'abord, il doit les réveiller, parce qu'ils dorment. Et ressentant son propre besoin de prière, il les exhorte à la prière, et puis il repart pour se jeter de nouveau par terre et prier son Père. Le verset 39, il dit, « s'éloigna de nouveau, il pria disant les mêmes paroles. » Et sa souffrance est telle qu'un ange du ciel est envoyé pour le fortifier. Luc 22, 43 dit, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Et il revient donc une deuxième fois vers ses disciples et il les trouve encore endormis. Matthieu 26, 44 dit, « Il les laissa donc. » Et Luc 22, 44 dit, « Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Et quand vous lisez Luc, il démontre que si c'est passé après l'apparition de l'ange pour le fortifier. Cela signifie que l'ange n'a pas été envoyé pour signaler la fin de la lutte, mais simplement pour le fortifier, pour pouvoir continuer sa lutte dans la prière. Car après la visite de l'ange, notre Sauveur, il dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et nous savons que la nuit était tellement fraîche que plus tard, Pierre a pris des risques pour aller se réchauffer près d'un feu, parce qu'il a froid. Mais ici, le Fils de l'homme est en train de transpirer. Hébreux 5, verset 7 nous dit que Jésus-Christ a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à son Père. Nous voyons donc l'énormité de son angoisse. Personne ici a vécu une telle angoisse d'esprit. Mais nous n'avons pas encore identifié la cause. Quelle est la cause de son angoisse? Et il faut le dire d'emblée que la cause de son angoisse n'est pas une crainte de la mort, ni un désir d'éviter la souffrance. On pourrait peut-être le croire au premier abord. Ah, il a peut-être peur de mourir. Il ne veut peut-être pas souffrir. Mais l'Esprit de Jésus allait dire par son apôtre Pierre, en 1 Pierre 4, 16, « Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Jésus lui-même avait dit sur le mont Matthieu 5, que si vous êtes persécutés pour la justice, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Nous pensons à beaucoup d'hommes, prenons Daniel par exemple, qui est resté calme et courageux quand on l'a jeté dans la fosse au lion. Ses trois amis ont fait de même lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente. Pensez-vous vraiment que Jésus était moins courageux que Daniel ou que ses amis? Qu'il avait moins de courage face à la croix romaine qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament face à leur mort imminente? Loin de nous la pensée. En fait, Jésus avait dit en Jean 10, 18, « Personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ah non, ce n'est pas une crainte de souffrir qui est la source de son angoisse. Notez comment Jésus l'exprime lui-même. Regardez Marc 14, verset 35. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que si c'était possible, cette heure s'éloigne de lui. Donc c'était quelque chose qui est venu à lui cette heure. Et il disait, verset 36, « Abba », qui veut dire « Père », toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce qui trouble son cœur jusqu'au point de mourir est ce qu'il appelle cette coupe. C'est la coupe qu'il doit boire qui lui cause cette angoisse. Alors, je vous la donne et puis on la regardera dans le texte. La cause de son angoisse était son identification personnelle avec nos péchés, réunie avec l'expérience de la colère de son Père. Voici à quoi il fait allusion quand il dit « la coupe ». On a vu au verset 33 où il dit « il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses ». Alors ça, ces mots peuvent nous aider, parce que ce mot traduit « éprouver de la frayeur » est utilisé 4 fois par Marc. C'est le seul à l'utiliser dans le Nouveau Testament. Et au chapitre 9, verset 15, vous n'avez pas besoin de le chercher, mais c'est traduit par le mot français « surpris ». Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, c'est ce mot, et accourue pour le saluer. Donc surpris, ça c'est un phénomène d'être surpris par quelque chose. Mais regardez en Marc chapitre 16, et on va voir les deux autres occurrences, où il dit « éprouver de la frayeur ». Marc 16, verset 5, c'est les femmes qui entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, c'est-à-dire l'ange, hein, et elles furent, dans ma Bible, il dit, à la fin du verset 5, épouvantées, c'est le même mot. Et puis regardez le verset 6, il leur dit, ne vous, encore le même mot, épouvantez pas. Alors, épouvanté veut dire inspiré de la répulsion, une profonde horreur. Donc, il y a ces deux idées dans ce mot. Le fait d'être surpris par quelque chose et ainsi qu'être épouvanté par l'horreur de quelque chose. Et ceci implique, pour revenir au chapitre 14, que Jésus était étonné et épouvanté par la coupe qu'il devait boire, et tout ce que cela impliquait. Alors, on se pose la question, mais comment Jésus, qui savait tout à l'avance, comment Jésus peut-il être étonné? Mais la raison, c'est qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et arriver à en faire l'expérience de la chose. Notre Sauveur est devenu un souverain sacrificateur sympathique en étant touché par le sentiment de nos infirmités et tenté en tout point comme nous. Mais nous savons que de toute éternité, il connaissait la souffrance, il savait ce que c'était la tentation, mais il ne l'avait jamais expérimenté en tant qu'humain. Et quand il a vécu en tant qu'humain, il a reçu quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Il n'était pas homme auparavant. C'était la façon dont cela se ressent qu'il a émerveillé, étonné, épouvanté. Il avait donné quelques heures auparavant une coupe à ses disciples en leur disant « Voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang ». Mais maintenant, il a sa propre coupe à boire qui lui est donnée par son Père. Et il doit le prendre. Et il doit le vivre. Boire une coupe parle d'une expérience à vivre. Qu'est-ce qu'il est en train de ressentir en buvant cette coupe que le Père lui a remise? Et il ne peut qu'y avoir une seule chance, car les prophètes nous disent qu'il va livrer son âme en sacrifice pour le péché. Son âme va être livrée pour le péché, Ésaïe 53, 10. Aucune autre âme ne sera jamais rendue un sacrifice pour le péché. Et Galates 3:13 dit ceci, écoutez bien, il est devenu malédiction pour nous. Il est devenu. Donc il a dû complètement le ressentir. 2 Corinthiens 5, 21, encore plus fort, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc il est devenu péché pour nous. Puisque nous sommes tordus par le péché, nous pouvons, c'est terrible de l'admettre, mais nous pouvons ressentir même un certain plaisir dans le péché, n'est-ce pas? Ça dure pas longtemps, mais il y a un certain plaisir dans le péché. Hébreux 11 en parle. Mais pensez à Jésus-Christ, le pur, l'innocent, qui doit vivre cette identification avec nos péchés, sans jamais être tordu par le péché. Nous voyons que Jésus n'a jamais péché, et le fait de devenir pécheur aurait rendu cette proximité au péché plus facile, mais il n'est pas devenu pécheur. Il devient péché, c'est-à-dire il ne devient pas celui qui produit plus de péchés. S'il aurait été pécheur, il aurait devenu quelqu'un qui produit plus de péchés. Mais il devient ce que les pécheurs produisent, c'est-à-dire cet horrible, effrayant objet de la colère de Dieu. Il devient ce que nous produisons, le péché haï et rejeté par Dieu. Nous pouvons être séduits par le péché, mais pas Jésus-Christ. Comme dit le prédicateur allemand du 19e siècle, qui s'appelle Krumacher, il dit « Il voit les transgressions qui lui sont imputées très différemment de la vision que l'homme a dans son état obscurci. Ces transgressions se présentent à ses yeux sacrés dans leur difformité crue, dans leur nature indiciblement abominable et dans leur pouvoir en tant que destructeur de l'âme. Dans le péché, Jésus voit une apostasie contre le Tout-Puissant, une rébellion audacieuse contre la majesté éternelle et une révolte basse contre la volonté et la loi de Dieu. De plus, il perçoit d'un seul regard tous les fruits et les conséquences horribles du péché, la malédiction, la mort et la perdition sans fin. Comment serait-il possible que l'âme pure et sainte de Jésus, à la vue de telles horreurs, ne puisse pas trembler et frémir et ne soit pas saisie d'une horreur dans son nom, dont nous qui sommes si profondément infectés par le péché n'avons aucune conception? Il suffit d'imaginer la sainteté personnifiée, placé au milieu de la corruption du monde. Quelle horreur pour Jésus-Christ. Quelle coupe à boire. Il dit, il se sent coupable devant Dieu. Tout ce qui est impliqué dans le fait d'être séparé de Dieu, privé de sa faveur, éloigné de son affection et devenu un enfant de sa colère, il le ressent aussi profondément, intérieurement, et vitalement que s'il était lui-même dans cette situation. Je crois que cela nous aide à mieux comprendre les psaumes qui sont souvent la voix du Messie, tels que le psaume 40. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions m'accablent, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête, je n'ai plus de courage, veuille Éternel me délivrer, Éternel, hâte-moi de venir à mon aide. C'est le Messie accablé par nos péchés qui crie ainsi, identifié à nos péchés. Tel que le psaume 22 qui parle de la crucifixion, en fait qui commence avec les mots « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus fait référence même à ce psaume lorsqu'il est sur la croix, mais il dit au verset 16, « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Jésus a vécu cela dans le jardin de Gethsémané. Il est seulement capable par la foi nue de lutter à travers le flot d'impressions et de sentiments opposés jusqu'à cette conscience que Dieu est toujours son Père comme auparavant. Son âme est inconsciente de la gracieuse présence de Dieu et ne goûte que la douleur et la détresse de l'abandon. Mes amis, ça va aller jusqu'au point où sur la croix, il pourra même te dire mon Père. Il dira simplement mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans l'Ancien Testament, il y a plein de chapitres. Comme en Apocalypse, la coupe de Dieu est une image de la fureur de Dieu et de sa colère déversée. Je vous donne un exemple du psaume 75 où il dit « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il le verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. » Ça parle de sa colère contre les nations. Jésus porte dans son corps notre péché en tant que l'agneau de Dieu. Et il doit boire cette coupe de la colère de Dieu. En parlant de son cri sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un auteur dit ce qu'on pourrait dire de ce moment dans le jardin. Il dit sur cette croix, au moment le plus sombre, le Fils n'a eu conscience de lui-même qu'en tant que péché et de son Père qu'en tant que vengeur. Quelle anomalie, le Logos, c'est-à-dire la parole, le fondement de toute loi est devenu iniquité et il est resté muet devant une obscurité inconcevable. C'est donc dans les horreurs de cet état que Jésus s'est senti placé. Et non seulement pour qu'il les contemple de loin, mais pour qu'il, d'une façon mystérieuse pour nous, mais qu'il entre en fait dans l'expérience de ces horreurs. C'est donc ces deux choses, son identification personnelle à nos péchés, où il le ressent à fond ici, avec l'expérience de la colère de son Père qui s'abat sur lui, qui décrit par cette coupe qu'il doit boire jusqu'à la lie. En buvant la coupe, Jésus a pris sur lui la malédiction de l'alliance prévue par Dieu. Il meurt dans les ténèbres, affamé, nu, pauvre et même assoiffé. Il est accablé par l'expérience de la malédiction de celui qui est pendu au gibet. Il s'est senti abandonné par Dieu, frappé par Dieu, humilié par Dieu. Et mes amis, c'est ici la bonne nouvelle, la dynamique fondamentale de l'alliance de Dieu que nous voyons à l'œuvre, parce que Dieu prend la malédiction du jugement et le met sur Christ, pour que ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ reçoivent à la place, par la foi, la bénédiction de l'Alliance, qui est par essence la communion avec le Christ et son Père. Alors terminons, considérons la réponse qu'il reçoit de sa prière. La réponse qu'il reçoit à sa prière. Nous avons vu déjà en Luc 22 que sa souffrance est telle qu'un ange du ciel est envoyé pour le fortifier. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, du Luc 22, 43. Et j'imagine que la simple présence d'un messager venu du ciel, quand il est entouré de cette horreur, a dû certainement le fortifier dans cet état. Mais comme nous avons déjà vu, l'ange ne reste pas et la lutte continue aussi férocement après son départ qu'avant son arrivée. Jésus mourant sur la croix n'a pas d'ange pour le fortifier. Et on peut même s'étonner du fait que c'est un simple ange qui vient et qu'il vient simplement pour lui permettre de continuer seul dans sa souffrance, pour lui donner assez de force pour continuer tout seul. Il ne reçoit pas de voix du ciel, mais un ange seulement. Vous savez, il avait entendu la voix du Père plus tôt dans la semaine, dans cette même semaine, donc quelques deux, peut-être trois jours avant. Jean 12, je vais vous lire verset 27. Quand il a dit « Mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Là, la première fois qu'il a dit cela, « Mon âme est troublée », juste après, nous lisons « Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Vous voyez, le Père est là pour le rassurer. Mais maintenant, en réponse à ses supplications, il ne reçoit que le passage momentané d'un ange. Le Père reste silencieux et éloigné. Peut-être c'était comme l'ange promis à Moïse et que Moïse a refusé. Rappelez que peut-être qu'à cause du péché du peuple, Dieu avait dit « Moi, je ne vais plus avec vous », mais en Exode 32, il dit « Voici, mon ange marchera devant toi ». Dieu offrait à Moïse la possibilité que son ange les accompagne, mais sans sa présence personnelle. Mais Moïse dit à Dieu, c'est en Exode 33, 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Moïse ne veut pas l'ange, même si l'ange aurait garanti la victoire. Il ne veut pas bouger sans la présence de Dieu. Et Dieu avait répondu à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Mais maintenant, aux cris, aux larmes, à la sueur, à la lutte, à l'angoisse, jusqu'à la mort de son propre fils, il envoie son ange pour quelques minutes, mais rien de plus. Alors ne pensez pas que ce soit la fin de l'histoire. Dieu a répondu à sa prière. En fait, Hébreux 5, 7 dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Et il a été exaucé à cause de sa prière. Philippiens 2, 9 à 11 dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Dieu allait répondre à cette prière. Le Fils allait être exaucé. Donc la prière dans le jardin de Gethsémané n'est donc pas la fin de l'histoire, mais Christ a dû boire la coupe jusqu'à la lie. Et en fait, si nous regardons bien la prière, nous voyons qu'elle a été exaucé. Dieu, Jésus demande deux choses ici. Il demande premièrement que l'exaucement de sa prière, c'est que cette coupe de la colère de Dieu soit éloignée de lui. Mais il demande que l'exaucement de sa prière soit accordé uniquement sous une condition précise. Et la condition précise est qu'il soit possible tout de même d'accomplir sa mission sur la terre. Jésus est un peu dans le noir, il est angoissé, il se remet à son Père, et donc il dit, c'est en Matthieu 26, 39, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Qu'est-ce qu'il veut dire, « s'il est possible » ? Parce qu'il avait dit aussi, et Marc 14 nous dit, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. » Comment est-ce qu'il peut dire, « toutes choses te sont possibles, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe ?» Eh bien, quand il dit « s'il est possible », il ne parle pas de la capacité de son Père. Il n'est pas en train de dire « Oh Père, si tu es capable, si tu es assez fort, assez sage, assez intelligent, fais quelque chose. » Il ne pense qu'à une possibilité conditionnelle dans les limites de l'accomplissement de l'objet pour lequel il est apparu dans le monde. Il avait dit plus tôt dans la semaine, mais je vais demander à mon père d'enlever cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu dans le monde. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il aurait pu facilement éviter sa mort. Étonné, épouvanté par cette proximité du péché qu'il déteste, il demande naturellement à son père de l'éloigner de lui, mais seulement et uniquement s'il pourrait tout de même accomplir sa mission sur la terre. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut. S'il aurait eu un autre moyen, le Père l'aurait donné à son fils. Le Père ne fait pas souffrir son fils gratuitement. Et prends ça, un coup de plus. Chaque souffrance qu'il a endurée était absolument nécessaire pour que nous soyons sauvés. Voyons-nous, sentons-nous un peu la gravité de notre situation, l'horreur de nos péchés contre Dieu. Jésus demande donc seulement sous une condition précise, s'il soit possible, Seigneur, avec la raison pour laquelle je suis sur terre. Et puis deuxièmement, Jésus demande qu'avant tout, la volonté de Dieu, son Père, soit faite. C'est pas quelque chose qu'il ajoute à la fin. Ah, je veux ça, si c'est ta volonté. Non, non. Il dit, je veux ça, mais ce que je veux vraiment, c'est ta volonté. Vous voyez la différence? Un enfant qui vient, je veux un nouveau vélo, si tu veux, viens me l'acheter. Compare ça avec un enfant qui vient à ses parents, j'aimerais bien un nouveau vélo. Mais vous savez quoi, maman et papa? Ce que je veux vraiment, c'est que vous décidiez ce qui est le mieux pour moi. Une différence d'esprit, n'est-ce pas? Et Jésus prie, sa requête sincère. Non, s'il te plaît, je suis faible, je suis dans cette position, je suis dans le noir, mais que ta volonté soit faite. C'était sa nourriture de faire la volonté de son Père. Il ne veut pas renoncer à sa mission sur terre, mais il ne veut surtout pas se dévier de la volonté de son Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pouvons-nous prier ça avec sincérité? On prie pour cela, on prie pour ceci. Mais est-ce qu'on peut prier, Seigneur, surtout pas ce que je veux, mais ce que tu veux? C'est intéressant, il veut ce qu'un autre veut. C'est pas qu'il veut l'autre chose, mais il veut que la volonté d'un autre soit faite. Ça, c'est sa plus grande requête. Et elle a été exaucée. Alors réfléchissez avec moi. Si Jésus était un simple prophète, ou un simple exemple, Jésus dans ce jardin serait un très grand échec. Parce que beaucoup d'hommes ont fait face à la mort avec courage, avec calme, sans tremblement, même avec joie. Pensez à Stéphane qui, lapidé, reçoit cela avec joie. Ou Paul et Silas qui chantent en prison. Jésus, un exemple, c'est un échec en tant qu'exemple. C'est un échec en tant que prophète seulement, parce que les prophètes de l'Ancien Testament ont fait beaucoup mieux. Mais, si nous le voyons là dans le jardin en train de porter nos péchés dans son corps, en train de ressentir toutes les conséquences de nos iniquités, tout devient clair. Voyez avec quel amour le Seigneur vous aime. Et vous? Allez-vous faire comme Judas et le trahir? Pouvez-vous tourner le dos à cet homme et recherchez vos plaisirs dans les péchés qui lui ont fait tellement souffrir. Il y a peut-être des gens dans cette salle et vous pensez à des péchés que vous voulez commettre avec joie et anticipation. Des péchés qui lui ont fait tellement souffrir. Pouvez-vous tourner le dos à Jésus-Christ? Voulez-vous vous moquer du Christ? Voulez-vous venir à lui pour qu'il vous sauve? Prions. Ô notre Père, nous te remercions pour ton grand amour. Et nous prions que le Saint-Esprit qui est présent parmi nous agisse dans nos cœurs pour nous humilier, pour augmenter notre amour pour toi et pour sauver ceux qui sont perdus. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen.